fois-ci, je suis en présence d'Agnès et Pascal Andrés. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal, je vais commencer par vous parce que c'est quand même assez spécial. Le sujet de votre conférence, c'est sur l'expérience de méditation. Et finalement, vous venez du théâtre. Ça, c'est singulier tout de même. Hein. Quant à votre sœur, puisque c'est votre sœur, Agnès, vous êtes déjà thérapeute. Ce qu'on peut comprendre davantage. Bien, aujourd'hui, vous nous avez démontré, là, pendant à peu près 45 minutes, vous nous avez démontré une expérience de méditation. On va commencer peut-être par pourquoi méditer, mais il y a quelque chose que j'ai bien aimé. Méditer, c'est amour, bienveillance, relation à soi et relation à l'autre. Qui veut parler ?
Oui, effectivement, le fait de revenir vers soi, la méditation, c'est déjà revenir vers soi, c'est se couper aussi de côté les plus réactifs. Et à partir du moment où je retourne vers moi, qu'est-ce que je vais rencontrer ? Je vais rencontrer ce qu'il y a de plus beau en moi. Et ce qu'il y a de plus beau en moi, c'est une capacité d'être bon pour moi et d'être bon aussi pour les autres. Et en tous les cas, c'est quelque chose que je peux aussi cultiver. Parce que est-ce qu'on va être heureux sans ça ?
Vous avez dit, Agnès, justement, tout au début, c'est en parlant de votre frère qui était très agité en arrivant sur la scène, vous parliez d'émotions, de doutes, d'inquiétudes. Effectivement, la méditation, alors je me retourne vers Pascal, la méditation permet de se recentrer sur soi, comme vous disiez tout à l'heure, mais en même temps, d'évacuer peut-être temporairement ces inquiétudes, ces doutes que l'on a par rapport à soi, par rapport à la vie, à notre environnement.
Tout à l'heure, vous parliez du théâtre, donc on peut parler maintenant du cinéma. On a notre cinéma intérieur et on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on se crée toutes sortes de scénarios parce qu'on désire des choses, on a peur que ce que l'on souhaite ne vienne pas. Donc on a toutes sortes de concepts qui sont là et on a besoin de faire une pause. Parce qu'autrement, on s'illusionne, on est pris par toutes sortes d'émotions. D'où l'idée de faire une petite scénette en entrée un petit peu burlesque pour illustrer nos schémas d'inquiétude, nos émotions perturbatrices. Donc l'idée, c'est de se dire que quand on est sous l'emprise, on est pris comme dans un torrent. Et après, on se dit « Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, quel imbécile !» Et c'est un peu tard. Donc l'idée, c'est que ça nous le fait. L'idée, c'est de se dire « Et là, c'est le cadeau que nous propose la méditation, de se poser. Mais pas juste se poser, c'est un outil pour apprendre à se déconditionner de nos mécanismes sur lesquels on est constamment sous l'emprise.
Alors justement, excusez-moi Pascal, dans le public, il y avait une dame non loin de moi qui me disait « Moi, je n'arrive pas à méditer, je suis une hyperactive. »
Il y a deux obstacles majeurs dans la méditation, c'est l'agitation et la torpeur. Donc soit on est là, mais la méditation, c'est au contraire pour aiguiser l'esprit, l'attention. Et l'agitation, on est pris par toutes sortes de choses. Et dès qu'on se pose, ça paraît simple, mais on se rend compte que ce n'est pas habituel. Et donc, il faut un peu de temps, il faut de la patience pour s'habituer à prendre un temps, à laisser ce symbole qui nous est souvent donné par les maîtres, c'est de dire qu'il y a l'eau qui est là. On n'arrête pas de remuer l'eau comme l'eau de nos pensées, il faut apprendre à la laisser descendre.
J'ai bien aimé cette allusion, effectivement.
Et donc, si on arrive à faire ça, eh bien, c'est là où la méditation, elle va être là, mais on appelle ça des cordes de rappel. Au départ, on va le faire. Oh là là, j'arrête pas d'être agité, je suis pris. Ah ok, c'est pas grave, j'en prends conscience et je reviens. Et c'est pour ça qu'il faut des supports et des techniques, comme s'appuyer sur la respiration et ou la méditation en 7 points, comme on a fait, pour avoir des supports. Autrement, c'est trop dur.
Qu'est-ce qu'apporte la méditation ? Je me retourne vers la thérapeute.
Tous les bienfaits de la méditation, c'est juste énorme. Et on a cette chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de gens qui s'y intéressent.
Et justement, jusqu'aux enfants, on fait pratiquer à des enfants dans des écoles la méditation.
Et tant mieux, parce qu'en plus, ils sont très ouverts, c'est très facile pour eux.
Turbulents même.
Mais même un enfant turbulent peut très bien se poser, respirer, focaliser son attention sur autre chose, déjà sur sa respiration, ou parfois sur des images aussi amusantes, on adapte pour les enfants. Mais finalement, c'est très rapidement des petits maîtres qui apprennent souvent à leurs parents de dire « mais calme-toi là, respire ». La sagesse des enfants est merveilleuse.
Au début, j'ai pu lire aussi « Et si nous étions plus que ce que nous croyons être ?» Qu'est-ce que vous entendez par là ? Justement, ce potentiel intérieur et que l'on ne soupçonne pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on n'entend pas ?
C'est-à-dire qu'il y a, on va faire, c'est pour ça qu'on dit cultiver la joie. Si on prend le temps de reconnaître notre véritable nature, souvent on souffre parce qu'on veut avoir une identité sociale et on présente des faux mois. Et si on arrive à être vraiment soi, on va voir qu'on a un potentiel incroyable, mais qui était voilé. Et donc, on est plus que ce qu'on croit être, mais souvent, soit on a une forme peut-être d'arrogance, mais qui est peut-être aussi une forme de méconnaissance de soi. Donc, l'idée, c'est si on arrive à se connaître et à se reconnaître, on va avoir des choses belles en nous et aussi belles chez les autres. Et c'est ça un peu...
Mais il n'est probablement pas facile de se dégager des conditionnements de notre... On a tous, chacun, un vécu, peut-être plus ou moins. Tout à l'heure, vous disiez qu'on avait des images, je crois que c'est peut-être Agnès qui disait que de bienveillance sur notre berceau quand on était petit. Tout le monde n'a pas ce regard de bienveillance. Comment peut-on sortir et se retrouver notre soi quand on a eu un passé probablement douloureux, comme ça arrive beaucoup.
Je pense que c'est vraiment une question essentielle. On a tous un potentiel extraordinaire et on peut ne pas avoir eu l'enfance qu'on aurait souhaité avoir, et c'est vrai que c'est souvent le cas, mais pour autant, le potentiel qui est en nous, on peut l'activer. Je n'ai peut-être pas eu des parents excellents, je peux devenir un bon parent pour moi-même. J'ai ce potentiel en moi, parce que ça, c'est un archétype que tout le monde comprend. Et à partir de là, je vais pouvoir ouvrir ma capacité à me respecter, à respecter la vie, à respecter les autres, à m'ouvrir dans le cœur, à m'ouvrir aussi sur une pensée de plus en plus claire, au lieu d'être plutôt gérée en permanence par mes peurs, par mes côtés réactifs. J'ai des doutes sur moi, j'ai des doutes sur tout, j'ai des doutes sur la vie. Nous sommes en plus dans une période de crise, alors les doutes, ça arrive vraiment de façon exponentielle. Donc à un moment, pouvoir se poser, écouter en soi, et puis se laisser peut-être écouter ce miracle à l'intérieur de nous qui s'appelle la vie et qui va nous enseigner d'autres choses, parce que la vie est un maître et parfois il faudrait prendre simplement le temps d'écouter.
Il faut pratiquer la méditation, mais probablement régulièrement et pas comme on vient de faire avec vous dans cette grande salle, à cet auditorium, pendant une heure. La pratique régulière, je suppose, ouvre justement l'esprit et ce que l'on a à l'intérieur.
Déjà, il faut savoir que de toute façon, il y a plein de façons d'être en intériorité et de s'aligner. Je pense que chaque personne en a un minimum, parce qu'on ne pourrait pas vivre le stress de la vie moderne sans ça. La méditation est une merveilleuse pratique. Quand on la pratique depuis des années, on a tous beaucoup de choses à en dire, et le recul que l'on a dessus nous permet d'être vraiment affirmatif sur le fait que c'est une voie magnifique, mais ce n'est pas la seule. Je veux dire. Et puis de toute façon, l'état méditatif, on peut l'avoir en marchant, on peut l'avoir en pratiquant un art, en s'intéressant aux autres. Hein. Les états d'empathie, les états de conscience de l'autre sont aussi des états qui nous ramènent dans une intériorité qui permet le déploiement de notre humanité. Et finalement, c'est ce qu'on cherche, c'est être vraiment qui on est en tant qu'être, pas simplement en tant que personne essayant d'éviter les problèmes de la vie.
Pour obtenir tout ceci, il y a, vous avez démontré, nous avez parlé de quatre poisons de l'esprit qui sont... Alors j'allais dire essentiel, c'est peut-être pas le mot, mais qu'il vaut mieux éviter dans sa vie pour obtenir une qualité de vie ou de cette relation à soi.
Donc les poisons de l'esprit, donc d'après le Bouddha, il y en a 84 000, donc il y a de quoi faire. Mais il les synthétise en trois, hein, ou il y a cinq, mais enfin déjà trois, ce qu'on a énoncé ce soir. C'est l'ignorance. Donc l'ignorance, c'est on prend pour vrai des choses qui ne sont pas vraies, on s'illusionne sur nous, hein, ce qu'on a un peu évoqué. Et donc, si on souffre, c'est parce qu'on s'identifie, donc le mot identifier est très important, on s'identifie à des phénomènes extérieurs, à des représentations d'une culture, être bon, être grand, être fort.
Nous sommes esclaves de notre environnement. Alors quelque
là,
part.
Bravo pour cette pensée, on est esclave de nos pensées. Donc une des grandes déclarations déjà du Bouddha, c'était de dire on devient ce que l'on pense. Donc le travail, c'est de reconnaître nos mécanismes de pensée. D'où l'exercice qu'on a fait aussi sur l'intention. Donc comme on est pris et qu'on est sous l'emprise, une fois qu'on est dans l'ignorance, on va commencer à animer plaisant, déplaisant. C'est-à-dire on va commencer à avoir une pensée conceptuelle, lui il est bien, lui il n'est pas bien, on va commencer à les étiqueter. Et à l'intérieur de ça, on va commencer à se dire, tiens, mes proches les aiment, mais mon proche l'aime, mais dès qu'il va faire quelque chose de déplaisant, c'est plus mon proche. Donc on est tout le temps dans cette vague d'insatisfaction permanente. Parce que la vie, elle est impermanente, et comme elle est impermanente, on aimerait capter les choses, on aimerait se rassurer en les captant, mais ce n'est pas possible. Donc c'est là où il y a une espèce d'acceptation, c'est-à-dire d'accepter les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, même si on souhaite le bonheur, c'est aussi accepter aussi les circonstances, on n'est pas Dieu. Et donc, à partir de là, on est un des éléments parmi d'autres éléments, donc il y a une forme d'humilité. Et dans cette humilité, de se dire, je prends ma place, mais ma place, elle est en interaction avec tellement de choses. On pourrait remercier, au contraire, la vie, parce que c'est grâce à tous ces phénomènes qui sont là qu'on est en vie. Je crois que cette reconnaissance-là, et de voir qu'on est pris par des mécanismes, mais quand on ne l'a pas, ben, on se met en colère. Quand on a un désir attachement, donc ça c'est l'autre poison, c'est de le maintenir, mais comme l'œil est impermanent, on ne va pas le maintenir et on va souffrir. Donc l'idée de ça, c'est, des fois on pourrait dire c'est pas juste parce qu'on aimerait que les choses qu'on aime les garder pour tout le temps, mais c'est pas vrai, on voit bien de l'état du bébé que la vie...
Les amours.
Donc comme c'est comme ça, l'acceptation c'est des vérités, que ces vérités-là, on ne peut pas jouer avec et si on joue, on se fait mal. Donc on peut avoir eu une mauvaise enfance, on peut avoir eu des... Parce que chacun fait comme il peut, on a... Mais à l'intérieur de ça, on a, même si ça nous est plus difficile, et certainement qu'on a besoin d'aide extérieure, parce qu'il y a des cas, on ne peut pas tout dire, voilà, la méditation règle tout, ce ne serait pas vrai, il y a plein de formes d'être et plein de formes de support possibles. Mais la méditation, si on est intéressé, il y a une telle source et de connaissances et de clarté dans ça, que c'est des outils qui peuvent nous permettre vraiment de nous reconnecter et de nous désillusionner.
Il y a un autre poison, peut-être pour terminer, si vous voulez bien, Pascal, un autre poison qui est de l'esprit qui est important, c'est la colère.
On peut associer un autre poison qui est l'orgueil, un moi, le moi. Donc c'est vrai que le moi, et là c'est aussi quelque chose dans le bouddhisme, on va aller interroger ça, c'est par exemple, on cherche le bonheur, mais c'est ma place. C'est ma place, là, c'est ma plage. J'ai mis ma serviette. Donc, tu vas jouer plus loin. Là, ça me fait, ça me fait de l'ombre ou quoi que ce soit. Donc, si on est attaché à quelque chose, on va y mettre son orgueil parce que moi, j'existe. Et ce moi-là, quand il est vu comme ça, c'est pas j'existe et je me reconnais sans me juger. Non, là, c'est... Et là, on va avoir de la colère. Si ce qui devrait me revenir n'est pas là, alors attention. Donc, une idée ou peut-être qu'on se moque de moi. Mais qui se moque de qui? De moi? D'une construction de moi? Eh, quand même. Je ne suis pas n'importe qui. Ces aspects-là sont de la souffrance parce qu'on s'est construit des principes. Tu écoutes ton père, tu écoutes ta mère, tu as vu la note, on a plein de considérations. Et dans la forme qu'on a, qu'on se positionne, oui, responsabiliser, oui, mais souvent, on va infantiliser, on va casser et on va souvent arriver comme un éléphant dans un couloir, hein, sur un jeu de porcelaine. On va faire le contraire de ce qu'on souhaite. Donc souvent, la colère est une énergie forte qui peut nous donner certains bénéfices, dominant-dominé, souvent qui est destructeur de la relation et qui nous oblige, un peu comme dans la jungle, à rester sur le qui-vive. J'ai dominé, mais il va peut-être revenir. Donc on n'est jamais tranquille.
Pour terminer cette émission, la méditation, c'est aussi une thérapie pour les grands malades. Je l'ai lu, je l'ai entendu, certains médecins préconisent. Qu'en est-il ?
Oui, on s'en sert de plus en plus. On a en France Christophe André qui a fait rentrer à l'hôpital Sainte-Anne et qui fait un travail magnifique, et puis beaucoup d'autres. Oui, c'est une très grande aide. C'est une très grande aide pour beaucoup de difficultés. On pourrait le dire déjà très simplement face au stress. On sait que le stress, c'est terrible pour tout notre système immunitaire. Donc déjà, au minima, et c'est déjà ça. Toutes ces prises de conscience de soi, beaucoup de maladies, hein, on sait que c'est un langage aussi du corps. Eh bien, au moins, c'est de prendre le temps d'écouter. Et quand le corps est entendu, quand nos émotions sont entendues, quand nos mémoires sont entendues, on peut les transformer.
On va terminer sur cette note, si vous voulez bien, d'espoir. On va écouter notre corps dans la pratique de la méditation, si régulièrement. Pascal, je vous dis au revoir, je vous remercie.
Merci à vous.
Au revoir Agnès et merci bien.
Merci à vous.